Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Pauline, elle est assistante sociale. Tout au long de cet épisode, on grandit avec elle. De ses premiers questionnements d'étudiante, en passant par son expérience professionnelle au Canada, puis son premier job, ses 10 années à l'Action sociale des armées, un projet un peu fou pour mettre en valeur les blessés de guerre, qui marquera sa carrière, et enfin son renouveau professionnel. Ce qui la guide tout au long de son parcours, c'est cette phrase « Ça ne coûte rien d'essayer ». Je vous laisse découvrir son beau parcours et ce magnifique projet. Belle écoute à vous.
Bonjour Pauline et bienvenue sur La Voix des Invisibles. Merci de m'avoir contactée pour témoigner sur ce podcast. Je vais te laisser donc te présenter, nous dire ton prénom, ta formation et depuis quand tu es dans le social.
Donc, je m'appelle Pauline, j'ai une formation d'assistante de service social. Je suis diplômée depuis 2009 de l'IRTES de Besançon en Franche-Comté.
Ok. Quand tu as débarqué dans le monde du social, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour quelle raison, qu'est-ce qui t'animait à passer des concours voilà.
Alors moi, j'étais en bac en fait à cette période-là, donc je suis rentrée en formation en 2006, j'ai passé mon bac également en 2006. Se posait la question de mon orientation post-bac, j'ai fait un bac économique et social, j'étais animée par l'idée d'aider les autres en fait, hein, d'apporter un petit peu de mon temps pour pouvoir les accompagner dans leurs difficultés. Finalement, j'avais très peu de connaissances sur le métier d'assistante de service social. Je sais pas, je dirais pas que j'y suis arrivée par hasard parce qu'on n'arrive pas là par hasard. J'avais une maman qui était dans le médical, une grand-mère également qui était sur ce volet-là. Donc, je pense que j'avais ces valeurs un peu familiales qui étaient présentes d'entraide. Et finalement, ça collait avec le métier d'assistante de service social ou les représentations que j'en avais. Donc, j'ai passé le concours en même temps que mon bac. Je me souviens encore avoir pas eu une très bonne note, avoir eu une note qui me faisait juste passer pour l'écrit et que mes parents m'ont poussée à me dire « si, il faut absolument que tu ailles à l'oral, tu y vas, l'oral se passe très très bien » et finalement je suis admissible immédiatement à l'IRTES de Besançon. Donc voilà, les choses se sont enchaînées ainsi. Je dirais pas beaucoup de représentations mais finalement j'en avais très peu parce que je connaissais guère ce métier-là. J'allais m'y former sans le connaître en fait.
Ok. À l'IRTS de Besançon, quelles ont été un peu tes premières impressions, comment tu t'es sentie, tes premiers stages, la rencontre avec des pairs.
Moi, j'étais un peu le bébé de la promo, finalement.
Oui, du coup, en sortant du bac, surtout.
Ça, en plus, j'étais même pas majeure à la rentrée, donc j'étais vraiment le bébé de la promo, je suis de fin d'année, donc... J'étais la plus jeune, donc c'est assez étonnant de se retrouver là en amphi avec des collègues de promo qui pouvaient avoir l'âge clairement d'être mes parents. Je me suis vite rapprochée en fait d'ailleurs d'un sous-groupe où ça a très vite fonctionné, où il y avait une vraie entraide. Je connaissais pas la ville où j'arrivais. Finalement, j'avais beaucoup à apprendre aussi en termes d'autonomie, puisque je quittais le nid familial. Et on a été plusieurs amis de promo, avec qui je suis toujours en contact, qui ont été des vrais piliers, en fait, dans tout, pendant ces 3 années de formation. Et puis après, il y a eu cette entrée en première année, la découverte de ces amphithéâtres, du fonctionnement de l'IRTES. Ce qui m'allait bien, parce qu'on n'était pas une très grosse promo, on était à peine 40 de mémoire.
D'accord.
Okay. Et moi, ça m'allait bien parce que finalement, sortant du lycée, on était un petit peu près sur le même format. j'aurais peut-être été perdue dans un établissement plus grand.
Oui.
Et ça me convenait bien, c'était un petit peu cocon, donc ça me convenait bien. Est arrivé très vite le choix et la recherche du premier stage. Et donc, je suis revenue en Saône-et-Loire, en polyvalence de secteur.
D'accord.
Auprès de deux formatrices, dont une que je garderai en tête et que je croise encore régulièrement, Nathalie. Nathalie, c'était vraiment toute l'image de l'AS de secteur qu'on peut avoir dans les stéréotypes.
C'est vrai.
Ça m'engageait, en fait, vraiment engagée pour tout le secteur qu'elle avait. Et là, je me suis retrouvée vite à observer cette femme qui avait une énergie folle et avec des situations hyper dégradées. Et en fait, je pense que je ne mesurais pas encore totalement tout ça. La précarité de certaines populations. On était dans un milieu, donc on est en Saône-et-Loire, on est sur un milieu extrêmement rural. Des personnes isolées qui finalement ont comme seule visite pour certains l'assistante de service social. Donc je suis un petit peu confrontée à ça et elle a créé une relation d'aide avec eux qui est juste incroyable puisque ça fait des années qu'elle est sur le poste et elle y est toujours d'ailleurs et elle est rentrée dans leur vie et je me souviens vraiment avoir eu cette image-là, elle fait partie de leur vie en fait, voilà.
Et toi, l'observant fonctionner, vu que tu disais tout à l'heure que tu avais finalement peu de connaissances du métier, quelles ont été un peu tes premières impressions, que ce soit sur elle, comment elle fait, comment elle fonctionne, mais aussi sur le public que tu as pu rencontrer. Est-ce que tu te dis, OK, ça ressemble à ça et c'est ça que je veux faire, ou est-ce que c'est... un peu percutant et où tu remets un peu en question ton choix de formation?
Alors, je me dis clairement, c'est ça, en fait.
Ok.
Et c'est exactement là ma place. Ça me bouscule énormément parce qu'on va dans des zones très précaires. Ça vient un peu bousculer aussi chez certains, un peu la notion d'hygiène. Où je me revois jeune stagiaire à me dire « Ouh là 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 là, mais je ne peux pas accepter ce café, c'est pas possible. » Et puis en plus, je ne buvais pas de café, mais je n'osais pas dire que je ne buvais pas de café, donc je prenais ce café. Enfin, et en fait, ça venait vraiment me percuter parce que Pauline, il faut à un moment donné que tu oses dire que tu n'aimes pas le café, quoi. Enfin,
juste ça. Mais oui, mais on n'ose pas parce que du coup, c'est un peu... C'est ce qu'ils ont envie de nous offrir. Donc,
clairement.
Pas trop dire.
C'était tellement ça. C'était aussi un moyen de rentrer en communication avec eux, de rentrer dans une relation. Et puis, en fait, à ce moment-là, ma formatrice prend un café, prend un gâteau. Je prends un café, je prends un gâteau. Et c'est sûr. Alors, ce stage, je me souviens, avait duré à peu près 6 semaines. Je pense que c'est au bout de la 4e semaine que j'ai commencé à m'autoriser à dire « Non, mais je n'aime pas le café, en fait. »
En fait, je ne vais pas en prendre. Parce que
c'est ça.
Je n'aime pas ça.
Clairement. Et là aussi, à ce moment-là, c'est venu confronter un petit peu aussi un autre système de valeurs pour moi parce que mon papa est artisan. Et on est sur un secteur de polyvalence qui finalement est à 50 minutes, 45 minutes de chez mes parents. Et on arrive au domicile d'un des usagers. Et je comprends très vite qu'en fait, mon papa fait partie du dossier de surendettement de cet usager.
D'accord.
Et là, ça vient me bousculer. Et je demande à ne plus aller au domicile de cette personne parce que ça m'est impossible, en fait, de trouver le juste milieu à ce moment-là sur comment l'accompagner.
Bien sûr.
Ça vient toucher ma famille. Et puis, en même temps, je comprends les difficultés qu'a la personne en face. Voilà. Mmh. Et pour ne pas me retrouver en porte-à-faux dans tout ça, dans un conflit un peu de loyauté avec moi-même, je demande à ne plus participer aux entretiens. Voilà. Donc, ça vient confronter un petit peu aussi, à ce moment-là, mon système de valeurs, sur comment on peut accompagner quelqu'un où finalement ça peut toucher nos propres valeurs, où on n'est parfois pas d'accord avec ce qu'ils ont mis en place par rapport à notre propre cadre à nous. Et ça permet très vite en fait, de mûrir cette réflexion-là.
Oui, effectivement, tu rentres sur une question délicate dès la première année.
C'est ça. Auquel je ne m'attendais pas à être confrontée.
Bien sûr.
Et finalement, ça m'a permis après, quand j'ai fait mes choix de poste, de toujours me dire je ne veux pas intervenir sur mon secteur d'habitation.
C'est une vraie question, ça.
Voilà. Alors, certaines sont très à l'aise avec cette question-là et il en faut pour tout le monde. Moi, je ne le suis clairement pas, en fait. Je préfère prendre la distance et les kilomètres permettent une coupure, même si on n'est jamais à l'abri de recroiser quelqu'un, etc. Mais j'ai besoin de ce temps, de cette distance géographique pour protéger ma sphère familiale. Voilà, première année, elle vient très vite me bousculer à cette question-là. Voilà, chose... que je m'attends pas du tout, en fait. Voilà, j'apprécie la première année aussi par tous les apports théoriques, en fait. J'ai besoin de me nourrir intellectuellement, déjà, à ce moment-là. Oui. Et puis, d'asseoir un peu mes connaissances.
Est-ce qu'il y a des rencontres que tu fais sur cette première année, des professionnels qui viennent à l'IRTS ou des formateurs qui comptent un petit peu sur cette première année, ou ça viendra peut-être plus tard?
Ça arrivera plus tard. La personne qui me... où je me souviens vraiment de cette intervention-là. On avait une intervenante sur le champ de la communication et elle nous faisait faire beaucoup d'exercices pratiques sur, en fait, les mots, on ne les entend pas tous de la même façon. Et finalement, elle nous demandait de dessiner quelque chose. On entendait tous le même énoncé et il n'y a aucun dessin qui ne se ressemblait à l'issue. Et c'était percutant, en fait. C'était concret.
Oui,
ce que j'entends moi en entretien, une autre AS entendra peut-être différemment. D'où la nécessité de reformuler, en fait. Voilà. Et ça devenait concret par ce cours-là. Et je l'ai toujours, en fait. Je garde toujours cette pochette-là avec moi parce que je trouve que c'est une belle piqûre de rappel. Voilà.
C'est sûr. Et puis oui, du coup, avec notre langage professionnel, on comprend déjà pas... toutes et tous la même chose. Alors on imagine bien que des personnes qui sont pas du tout de notre sphère qu'on a accompagnées, le niveau de compréhension peut être complètement différent par rapport à leur construction, leur valeur. Enfin, nous, il y a quand même quelque chose qui déjà rassemble un petit peu, mais alors pour des publics, et puis quand il y a la barrière de la langue, c'est encore une difficulté, que ce soit par la maîtrise de la même langue ou par déficience ou quelque chose comme ça.
Clairement. Et son cours, il était concret, en fait.
Ouais.
Je pense aussi, elle m'a marquée par ça. Ça avait du sens. Et on était en plein dans cette observation de la relation d'aide en première année. Et finalement, ça me permettait de comprendre davantage les techniques d'entretien de ma formatrice. Pourquoi parfois il y avait des incompréhensions sur ce que pouvait mettre en place l'AS ou sur la situation, parce que finalement, on ne mettait pas la même chose derrière le mot utilisé.
Mmh.
Donc, ça avait du sens sur cette première année, mais c'est une première année qui passe très vite finalement et qui est très scolaire parce qu'on n'a que 6 semaines de stage à cette période-là sur cette formule du DE. Donc, c'est une première année très, très scolaire.
Et alors, tu entames la deuxième année, quel stage tu choisis ou quel stage tu fais?
Alors, en deuxième année, alors on ne choisit pas à ce moment-là à l'IRTES, on nous demande juste un petit peu notre zone géographique. Mmh. Et donc, je me retrouve à l'APA du Jura, au service d'accompagnement lié à l'autonomie, avec la mise en place de cette prestation au domicile, en accompagnant un public de personnes âgées. J'ai à ce moment-là 2 formatrices avec des personnalités complètement différentes, mais qui sont toutes les deux très attachantes. Et avec le recul, j'ai compris très vite pourquoi ce service-là. Je me retrouve vite en autonomie, ce qui me convient bien. J'ai besoin très vite de prendre de l'autonomie et puis de voler un petit peu de mes propres ailes. Et en fait, je me rends compte très vite que je suis malveillante, entre guillemets, sur mes plans d'aide, parce que je veux apporter trop d'aide. Et que finalement, je respecte très peu le besoin de l'usager, au tout début, sur mes plans d'aide, et leur autonomie. Et en voulant mettre un maximum d'aide à domicile en place, pensant bien faire en fait, vraiment pouvoir soulager la personne âgée dans son quotidien, je fais mal parce que finalement, je l'empêche de réaliser ce qu'elle sait faire. Et je comprends assez vite.
Tu t'en rends compte ou est-ce que c'est...
Je comprends assez vite parce que je vais encore en entretien en visite à domicile avec mes formatrices.
Oui.
Et je me rends compte que je suis pas dans le... qu'il y a quelque chose qui va pas dans ma façon de voir le plan d'aide, en fait. Mm-hmm. Ça colle pas à ce qu'elle met en place, que moi j'aurais mis beaucoup plus d'heures. Et finalement, on échange énormément. Et ça vient toucher mes propres valeurs sur l'idée que nos grands-parents ont beaucoup donné pour nous et que c'est mon devoir de les aider en contrepartie.
Tu penses que l'âge du public et leur situation au regard de l'autonomie t'évoque quelque chose qui fait que tu as envie de donner...
Clairement.
Plus, ok. C'est intéressant. Et tu te poses des vraies questions dès la formation. Enfin, deuxième année, tu es déjà sur des premières années. Bon, voilà, tu as eu la question de la distance. Mais alors, du coup, là, sur la deuxième, c'est hyper intéressant aussi.
Et finalement, je comprends vite pourquoi on m'envoie là. Parce qu'au début, sur le papier, sincèrement, j'étais pas hyper satisfaite en me disant j'aurais bien voulu retourner en polyvalence de secteur, c'est la mise en place d'une prestation. J'étais en quête de sens, en fait, dans le début de ce stage. Et je comprends vite pourquoi on m'oriente là-dessus, parce que j'ai besoin de prendre de la distance par rapport à mon propre cadre de valeur où j'aurais mis en place beaucoup plus d'aide, si c'était mes grands-parents, par exemple, où j'ai ce besoin envers mes grands-parents d'aller les aider plus, mais c'est lié à mon histoire. Et j'étais en train de projeter mon histoire dans le même plan d'aide auprès de ces personnes âgées et aussi par rapport à la place que je peux donner pour nos aînés dans la population, en fait. Je pense que vraiment... on a beaucoup à apprendre de nos aînés. Donc, à ce moment-là, je suis focus là-dessus en disant il faut les aider. Mais en fait, je ne suis pas aidante du tout. et je m'en rends compte assez vite. Et c'est un stage qui va aussi me bousculer très vite parce que une de mes formatrices est absente pour des raisons de santé sur plus de 2 mois et demi sur le stage.
Ouais.
Et donc, la chef de service me propose de prendre ce poste, en fait.
Elle te dit, tu reprends, c'est suivi, t'as un œil dessus le temps de son absence. Ah ben, là, t'es mis dans le grand bain direct.
C'est ça. Mais j'adore, en fait. J'adore parce que je suis en autonomie. Et moi, ça me convient. J'aime mener ma barque, il faut que ça avance. Et je pars en VAD toute seule, très vite. Et c'est génial, en fait. Hein. Ça a été très vite très formateur, cette prise d'autonomie. Je dois faire, je dois réussir le quotidien d'une AS je me donne l'obligation de le réussir de toute façon et ça me passionne. Donc en fait, les journées s'enchaînent et le stage arrive vite à sa fin et je ne l'ai pas vu passer. Voilà.
Si pour le coup tu as été en autonomie, c'est sûr que tu as peut-être moins de moments un peu creux où tu observes, où tu suis. Là, tu es complètement active dans ton stage. Donc.
Clairement.
Ok. Je suis hyper curieuse de savoir, du coup, pour ton troisième stage, où est-ce qu'ils t'ont envoyé, sachant que sur ton deuxième stage, tu étais déjà très en autonomie.
Et donc, troisième année, là, c'est mon choix. C'est moi qui recherche. Et ouais. Je fais le choix de vouloir être sur Besançon. Okay. De façon à pouvoir mener mon travail de recherche pour le mémoire de façon plus facile, en ayant accès plus facilement aux bibliothèques, en fait. Et donc, je postule et je suis prise au CHU de Mingeau, le CHU de Besançon, okay. Et je suis en psychiatrie de l'adulte.
Ok.
Voilà. Et là, je suis avec Laurence. Et Laurence me fait confiance très vite, en fait. Et me donne un de ses services.
OK.
Au bout d'un mois de stage, voilà. Au bout d'un mois de stage, je suis responsable d'un des services de psychiatrie de l'adulte. De mémoire, il y avait une trentaine de patients. C'était pas un très gros service, mais sur des hospitalisations en moyen et long séjour quand même, sur lequel on peut vraiment travailler avec l'équipe soignante, le retour à domicile. Mmh. Et un retour à domicile qui ne se fait pas dans l'urgence.
D'accord. Vous avez le temps de pouvoir travailler les choses.
C'est ça. Alors, je pense que ça fausse un petit peu mon image parfois du service social hospitalier parce que forcément, moi, je l'ai connu avec un service où on a le temps de... On avait le temps, je ne sais pas si aujourd'hui ça serait pareil, mais on avait le temps de mettre en place le retour à domicile et de vraiment le construire avec l'équipe soignante. Mmh. Ma formatrice a fait toute sa place dans le staff et participe à ces réunions du lundi où il y a un temps d'échange, en fait, entre tous les personnels, que ça soit... les psychiatres, les aides-soignantes, les infirmiers, les psychologues, l'AS. Finalement, tout, on est tous là, en fait. On est tous présents et c'est un vrai temps d'échange sur leurs préconisations médicales, comment eux, ils envisagent le retour à domicile, quand est-ce qu'ils l'envisagent. Et puis, ils prennent en compte comment nous, sur le volet social, comment c'est préparé. Est-ce que la personne, elle est prête à ce retour à domicile ou pas. Et c'est très intéressant, ce stage en psychiatrie de l'adulte. Ça bouscule beaucoup. On a des profils aussi de personnes avec des pathologies lourdes où ça vient chercher toutes mes idées préconçues sur la maladie mentale et mes peurs d'ailleurs, car j'avais peur à ce moment-là. J'avais exprimé ne pas toujours être très rassurée au début en entretien, en individuel avec certains, en disant je sais pas, vous m'assurez que ça va bien se passer. Voilà.
Bah oui, quand on sait pas trop à quoi s'attendre, effectivement, c'est des questions qui sont plutôt légitimes.
Voilà, avec beaucoup d'idées préconçues sur la maladie mentale. Alors, je viens déconstruire tout ça et finalement, c'est un très beau stage. C'est un très, très beau stage au CHU. Ça me permet aussi de prendre le temps d'aller un petit peu dans les autres services auprès des autres AS et de découvrir d'autres types d'activités dans un service social hospitalier. Mais c'était nécessaire d'être sur ce poste-là et puis je fais le choix de mon mémoire, un mémoire en lien avec les personnes âgées et du coup ça me permet d'avoir l'AS en géronto qui est présente, qui m'accompagne aussi dans la construction de ce mémoire.
D'accord.
Ce mémoire, ça a été vraiment le mémoire a vraiment été l'élément clé de ma troisième année. Ça a été passionnant.
Ouais, ça n'a pas été une contrainte, un exercice contraint pour toi.
Non, la frustration a été même de terminer le mémoire, de ne pas pouvoir aller plus loin. J'étais passionnée, j'ai fait un choix de sujet qui était sur les aidants. Les aidants et comment on devenait... Le grand titre, c'était en gros comment on devenait le parent de son parent quand il perdait de l'autonomie. Et là, je rencontre des personnes avec des récits de vie qui sont bouleversants. À quel point le poids de l'héritage va construire toute notre relation avec nos parents. Et cette obligation inconsciente qu'on peut se donner de devoir les accompagner. Et comment aussi... on s'est construit au travers de tout ça, puisque statistiquement, c'est souvent une femme, l'aînée de la fratrie, dans une profession du social ou du médical. Et on pouvait comparer tout ça aussi avec le schéma des agriculteurs dans le monde agricole, du poids de l'héritage, de qui va reprendre l'exploitation agricole. Et je trouve ça passionnant. Voilà. Et j'ai une directrice de mémoire qui a été ma responsable deuxième année, de promo de deuxième année, qui est très présente, d'une bienveillance. C'est quelqu'un qui aura marqué mon parcours, en fait. Vraiment, Evelyne, c'est... Pour moi, la personne clé de mes trois années à l'IRTES de Besançon. Et c'est elle qui m'envoie en stage à l'APA.
Elle a peut-être repéré un petit peu vers où elle pouvait t'envoyer. Tu penses que c'était plutôt calculé, entre guillemets, en tout cas.
Mais oui. elle avait une capacité d'analyse de nous tous. Elle avait bien cerné où il fallait qu'on vienne se bousculer, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et c'était très drôle parce qu'après ce stage deuxième année et troisième année, j'avais dit pour moi, je n'irai jamais en polyvalence de secteur. elle a beaucoup ri avec le temps.
Et donc, où est-ce que tu vas après?
Alors après mon diplôme, donc j'obtiens mon diplôme en juin, et je fais un choix tout particulier. Je pars travailler pendant 4 mois au Québec.
Ok.
C'est un programme à ce moment-là d'échange Franche-Comté-Québec qui me permet d'avoir un statut encore de stagiaire étudiant, entre guillemets, et d'être financée, d'avoir un système de bourse par la Franche-Comté, d'avoir le financement du voyage et d'aller travailler dans une structure québécoise. Donc là, je pars direction Trois-Rivières, une ville entre Québec et Montréal. Je crois que j'y vais chercher deux choses. D'un point de vue perso, j'y vais chercher un peu mon émancipation. J'ai 21... Je vais avoir mes 21 ans. J'ai besoin de quitter le cocon familial, d'aller une soif aussi, une envie de découverte d'autres cultures. Puis professionnellement, je vais chercher en fait vraiment le développement de l'action collective parce que j'ai touché du doigt en formation, mais pour moi, c'est pas assez approfondi et que je me sens pas en capacité de suite de prendre un poste et de mettre en place l'intervention sociale collective. Donc, je trouve un centre communautaire à Trois-Rivières qui s'appelle CONCEP. Et CONCEP, c'est un centre communautaire qui accompagne des personnes analphabètes. Je me retrouve vite face à la culture québécoise avec des grands moments de solitude quand même, faut quand même le reconnaître. Et là-bas, je ne fais que de l'animation de groupe. Mais j'arrive avec mon regard de travailleur social, d'assistante de service social, où dans l'animation de groupe, je peux repérer des situations individuelles. Et là, je mets en place en parallèle des entretiens individuels pour pouvoir les accompagner sur des problématiques qui leur sont propres et qui ne sont pas communes à tout le groupe.
Ok.
Et là, là-bas, j'ai différentes missions. Donc, je fais un atelier journal avec des personnes de ce qu'ils disaient un peu niveau 2, entre guillemets, qui avaient déjà une petite base de l'écriture du français. Et donc, on fait un atelier journal tous ensemble sur les sujets qu'ils veulent, en fait. Voilà. Et on construit ce journal ensemble et c'est passionnant. J'ai un atelier aussi de personnes sur un retour à l'emploi. Et là, on construit tous ensemble sur les représentations de l'emploi, quels sont les freins de ce retour à l'emploi sur le monde du marché du travail, qu'est-ce qui les inquiète, quelles sont leurs inquiétudes, quelles sont leurs compétences, comment on peut les valoriser. Et puis, on les accompagne sur différents lieux de stage. Donc, on a vraiment une place plutôt de travailleur social. Ça me bouscule un peu par rapport à la place de l'AS que j'avais avant en France.
Est-ce que tu te sens dans une place plutôt éducative?
Oui, ouais, voilà. Et ça vient me bousculer voilà, sur mes représentations de mon métier. Mais là-bas, je suis considérée comme travailleuse sociale.
Ouais.
Et finalement, je prends du plaisir sur ce volet éducatif. Ça ne me déplaît pas du tout. On avait un comptoir vestimentaire. Donc, le matin, il fallait aller avec eux, trier ce linge... le mettre dans le vestiaire, tenir la boutique avec eux. Mais finalement, vous êtes un peu le garde-fou de façon à ce que ça fonctionne. Responsable de ce vestiaire. Mais ils arrivent à faire tout ça en autonomie. Je comprends que par ces moments-là, on peut partager plein de choses et que la relation d'aide, elle se construit aussi là.
Et que c'est finalement un support et que tu t'en serviras plus tard, quoi.
Clairement.
OK.
Et ça me bouscule. Ça me fait grand bien. Et je reviens avec toute cette pratique-là en France en décembre 2009. Je suis partie à peine 4 mois. Et très vite, je commence au conseil départemental de Saône-et-Loire en polyvalence de secteur. Voilà.
Je n'irai pas en polyvalence de secteur.
C'est ça.
Qu'est-ce qui t'a... C'est une offre, c'est finalement une déconstruction que t'as opérée. C'est qu'est-ce qui t'a ramené
Je me dis à ce moment-là, il faut y aller en polyvalence parce que c'est le lieu le plus formateur. Tu aimes avoir de l'autonomie, Pauline. Je suis un peu une boulimique de travail. Ça va répondre à tes attentes. Il faut que tu y ailles, Pauline. Donc, il y a cette offre-là. Je postule. Je suis sur un poste de contractuel où je compense les temps partiels des collègues. Donc, c'est un poste un peu précaire parce qu'on ne sait jamais vraiment à l'avance s'il va se renouveler. Mm-hmm. Et je tombe dans... J'arrive dans une belle équipe. J'ai beaucoup de chance, en fait, je me rends compte. J'arrive dans une belle équipe qui fonctionne bien, qui a envie de mettre en place du collectif. Et ça tombe super bien puisque moi, je reviens de ces 4 mois.
C'est sûr. Si on t'avait dit non, tu ne fais pas de collectif, j'imagine que tu aurais été un peu frustrée, déçue de ne pas pouvoir mettre en place ce que tu avais commencé à initier.
C'est ça. Et finalement, on met en place des beaux projets, même si là, je suis là en temps contrat, je m'investis vraiment dans les projets. J'ai des missions. Alors, bien sûr, je suis en charge de toutes les communes rurales autour de cette ville. Je prends énormément d'autonomie sur ce poste. On met en place une permanence. Ça me bouscule parce que je suis face à des situations que j'ai jamais vues en stage, notamment des situations de protection de l'enfance, en fait. Hein. Là-dessus, je suis pas très au clair quand j'arrive en polyvalence de secteur. J'ai les grandes lignes, les grands textes en tête, mais dans la pratique, j'ai pas fait d'évaluation, donc je me retrouve très vite à faire des évaluations. Mais c'est, il y a un mode de fonctionnement dans ce centre médico-social où on ne fait pas les évaluations seules. On les fait à 2 AS, dont une AS qui est dédiée à l'évaluation.
D'accord.
Donc, sa mission est dédiée à l'évaluation, donc ça me rassure, ça me sécurise en fait.
Voilà. Bien sûr, c'est une lourde responsabilité l'évaluation.
Et ça me sécurise vraiment d'être en binôme. Et ce qui me permet d'avancer dans cette mission-là avec beaucoup plus de sécurité et de sérénité, même si ça sera ces situations-là qui m'auront marqué le plus sur mon poste en polyvalence. Et puis, on met en place plein de projets collectifs avec un atelier culinaire, un café des habitants dans une office HLM... On met en place un groupe pour la parentalité et puis on est en plein déménagement du centre médico-social et on se dit qu'il y a à ce moment-là qu'on fait fausse route, il faut qu'on associe l'usager dans ce déménagement et dans la construction de ce nouveau centre médico-social. Et on crée alors à ce moment-là un groupe avec ceux qui le veulent de création du CMS avec leurs besoins et leurs attentes.
Trop bien.
Et ça, c'est formidable, ce groupe-là. Alors, je n'ai pas pu voir la fin, mais c'est en fait, à ce moment-là, je me dis, on a compris les choses, en fait.
Oui.
Moi, je ne sais pas, en tant qu'AS, ce dont ils ont besoin dans la salle d'attente.
Bien sûr.
Voilà. Et bien, vous qui êtes assis dans cette salle d'attente, voilà comment on peut la construire pour que vous vous sentiez bien. Que le temps que l'AS ait fini les entretiens d'avant, voilà, que ça se passe au mieux pour vous. Qu'est-ce que vous attendez du CMS? Qu'est-ce qui... Voilà. Et ça, c'est top.
Oui, t'as réussi à... Enfin, vous, du coup, avez réussi à mettre en place la participation des usagers au sens premier du terme, en fait.
C'est, clairement.
On prend votre besoin parce que c'est quelque chose en votre direction, quoi.
C'est ça.
Et c'est génial.
Et ça va. Et finalement, je pense que je l'ai compris davantage au Québec. On part de leurs besoins en groupe. L'article du journal, qu'est-ce que toi tu veux faire? Je sais pas. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai pu comprendre les choses. Mm-hmm. Et finalement, je reviens le recalquer un petit peu dans mon mode d'intervention sur me centrer sur le besoin de l'usager. Il a des idées. Comment lui, il envisage de mettre en place les choses. Et puis, on va partir de ça. Voilà.
Trop bien. Et en plus, du coup, tu fais appel à des personnes que toi, tu as en suivi, j'imagine.
C'est ça.
Donc, ça te permet de les voir sous un autre angle, de les valoriser différemment, de les connaître un peu plus.
Ouais, c'est top. Et finalement, on est sur un secteur rural à ce moment-là aussi, avec beaucoup d'isolement. Et on se rend compte qu'il y a besoin de ce type de groupe pour créer de l'entraide. Et finalement, on constate très vite que la problématique de comment se rendre à ces réunions, à ce temps de groupe, elle disparaît très vite, puisque entre eux, ils mettent en place un système de moi, j'ai un véhicule, je viendrai te chercher, et voilà. Oui. Et finalement, ce système d'entraide, on le retrouve après sur une prise d'autonomie, sur la question de j'ai des difficultés pour accéder ou emmener mon enfant à un centre de loisirs ou aller faire mes courses. Et bien, tout ça, par eux-mêmes, ils trouvent des solutions.
Oui, ils ont pris une habitude de pouvoir oser solliciter, on va dire.
C'est ça.
Des personnes qui fréquentent les mêmes lieux qu'elles, que ce soit le CMS, le centre de loisirs, l'école. Ok. Donc, il y a une solidarité qui émane de ce projet, finalement.
Oui, de tous ces projets collectifs. On avait participé, j'ai toujours en mémoire cette soirée-là, parce que c'était très... Voilà. On a participé à une soirée qui s'appelait la fête de la soupe. Et on était partis sur l'atelier culinaire en leur demandant, comment vous envisagez ? Est-ce que si vous voulez, on y participe ? Mais si vous souhaitez, vous. Et finalement, le groupe a dit, voilà. D'un commun accord, ils se sont dit ok, et c'est eux qui ont choisi quelle soupe ils allaient préparer et comment on allait monter le stand. Et tout ça, on a vu, ça c'était l'aboutissement un petit peu de ce groupe culinaire, mais on a vu l'évolution du groupe en fait. Où finalement, nous en tant que travailleurs sociaux, on était un petit peu observateurs à la fin.
Mmh. Oui, c'était le groupe qui avait pris le pas et.
C'est ça.
On est venu du coup.
Mais oui, clairement. C'est l'objectif, et tant mieux.
Le job était fait.
Donc là, je reste un an, à peu près, en polyvalence de secteur, puisque j'obtiens, je passe en octobre, je crois, septembre-octobre, le concours pour intégrer l'action sociale des armées. Donc, je passe ce concours-là, et j'intègre l'action sociale des armées en janvier 2011.
Voilà. D'accord. Ok.
Mon premier poste se situe à Dijon, oui. Au profit de la gendarmerie, donc des personnels de la gendarmerie, leurs familles, les retraités, les veuves de la gendarmerie, surtout le département de la Côte d'Or.
Ok, c'est important qu'on précise ici, c'est une question que je t'ai posée tout à l'heure quand on échangeait un peu. Là, ce poste-là n'est pas en direction des personnes qui solliciteraient la gendarmerie, des victimes de violences conjugales, ou comme on peut se représenter parfois les travailleurs sociaux au sein des services de la gendarmerie. Toi, tu es dédié, tu es au service du personnel de la gendarmerie. Ok.
C'est ça.
Donc, c'est pour
le service social du personnel. Ouais. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Je postule, je passe ce concours parce que je pense que j'ai un parcours depuis mes 16 ans, je suis pompier volontaire et que ce type d'institution m'interpelle. Voilà. J'aime le cadre, j'aime les valeurs que ça véhicule. Mmh. Et finalement, je suis contractuelle au conseil départemental. L'opportunité de ce concours se présente, je le passe, ça fonctionne. Et donc, j'arrive au service social du personnel, service que je ne connais pas du tout. Particularité, les gendarmes dépendent du ministère de l'Intérieur. Mmh. Et moi, je suis ministère des Armées, mais il y a une convention entre ces deux ministères, puisque les gendarmes ont un statut de militaire. Donc, c'est le service social des armées qui accompagne les gendarmes. Et j'arrive dans ce service où je n'y connais rien. je connais les grandes lignes du service, de ce que font les gendarmes, mais je ne connais pas réellement mes missions, si ce n'est d'avoir compris que j'allais les accompagner dès lors qu'ils avaient des difficultés sur le plan professionnel et personnel. Mais je ne connais pas à ce moment-là du tout mes missions dans le détail. L'action sociale des armées, je découvre cette institution qui a ses propres prestations, qui viennent en complément du droit commun.
D'accord, ok.
Donc, j'ai une grosse année, on va dire, d'acculturation.
Oui.
Pour comprendre comment fonctionne le ministère des armées, la gendarmerie et l'action sociale des armées.
Oui, ça fait beaucoup de découvertes, du coup, puisque tu as d'autres dispositifs à ta disposition. Un public, j'imagine, enfin, en tout cas, moi, ça a été une de mes questions que je te disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin au final, qu'est-ce que ce personnel a besoin dans l'accompagnement. Tu vas nous en dire un peu plus, mais c'est vrai que quand on a peu approché ce milieu, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire finalement.
Oui, parce que dans les idées préconçues, on peut se dire le gendarme, il est logé.
Oui, pour la gendarmerie.
Il a une paye à la fin du mois, il n'a pas de loyer à payer. Où vont être les difficultés sociales, en fait.
Oui, c'est vrai.
C'est un homme qui représente la loi. Il n'y aura pas de difficultés. J'étais à 1 000 lieues, enfin vraiment à ce moment-là, j'étais vraiment encore dans toutes ces idées préconçues, à 1 000 lieues d'imaginer des violences intrafamiliales, de la protection de l'enfance. Mais finalement, c'est un citoyen comme tout le monde.
Oui, bien sûr, qui rencontre les mêmes problématiques, les mêmes difficultés que tout le monde.
Et, je comprends assez vite que je vais faire de la polyvalence de catégorie, en fait.
Oui, ok.
Voilà. Ça va venir toucher tout le champ personnel, donc de les accompagner dans toutes les difficultés de la vie courante, le logement, la famille, la santé, les enfants, l'accès à l'emploi pour la compagne, qui sont mutés régulièrement. Voilà, je vais venir un peu toucher tout ça. Et puis, très vite arriver aussi le volet pro, le volet professionnel, où il va falloir les accompagner dès lors, leur proposer en tout cas un lieu d'écoute et un lieu neutre pour venir exprimer peut-être potentiellement un mal-être et une souffrance au travail. Mm-hmm. Nous, à l'Action sociale des armées, j'interviens à ce moment-là au profit de la gendarmerie de la Côte d'Or et 2 ans après, je vais être mutée sur la gendarmerie du Jura, mm-hmm. à ma demande, mais j'ai les mêmes missions. Alors, nous, à l'Action sociale des armées, on intervient... j'interviens pour un groupement de gendarmerie. L'antenne sociale est dans la gendarmerie. Néanmoins, je ne dépends pas hiérarchiquement du commandant de groupement.
OK.
Donc, je ne dépends pas de la hiérarchie militaire. J'ai ma propre hiérarchie.
La hiérarchie, c'est un service d'action sociale.
C'est ça. J'ai au-dessus de moi une conseillère technique d'encadrement.
OK.
En local... et puis, on va dépendre du... Aujourd'hui, il y a eu des refontes entre-temps, mais aujourd'hui, on dépend du Centre territorial de l'action sociale de Metz, où là, on a une conseillère technique de direction et un directeur du CETAS. Donc, j'ai ma propre hiérarchie civile, ce qui me permet de toujours assurer aux gendarmes et lui garantir que la seule personne à qui je vais devoir rendre compte s'il y a une problématique spécifique sur leur situation, c'est à ma hiérarchie sociale,
oui,
pas à leur hiérarchie militaire.
Et ça, tu penses que ça protège quelque chose, ça préserve quelque chose dans leur vie?
Oui, clairement. En fait, ça permet vraiment de leur offrir un lieu neutre et un lieu d'écoute et où ils vont pouvoir venir déposer des choses. Je suis soumise au secret professionnel et ils savent que ça ne va pas être répété à leur hiérarchie. Mmh. Alors, bien entendu, on reste toujours sur parfois des situations où on marche un petit peu sur des œufs parce qu'on va repérer une vraie souffrance au travail avec potentiellement une mise en danger pour lui ou pour les autres. Et là, il va falloir qu'on arrive à construire avec le gendarme, avec le militaire, qu'il va falloir qu'il aille consulter et que je l'oriente vers médecin militaire. Et ça, c'est un travail qu'on fait ensemble. Mm-hmm. Mais c'est les seules situations où là, on va devoir communiquer sur leur situation et on donnera que les éléments qui sont nécessaires à la bonne compréhension et de pourquoi on les oriente. Mais sinon, on est vraiment garant de ce lieu-là. Et donc, je suis restée 2 années en Côte d'Or et je suis arrivée depuis 2013 dans le Jura. Donc ça fera 10 ans, à peine 10 ans, parce que j'ai fait un peu d'atterri maintenant sur le Jura en 2012. Et là, ça s'est vraiment construit comme ça. Aujourd'hui, je suis vraiment identifiée comme le lieu où on peut venir décharger les choses. Je comprends les spécificités de leur métier. Mm-hmm. Ça, ils le savent, et que je ne serai pas dans le jugement. Et qu'en aucun cas, même s'ils viennent me parler d'une mutation ou qu'ils envisagent une reconversion professionnelle, ça va entacher le déroulement de leur carrière. Voilà.
Oui, bien sûr, puisque du coup, tu hiérarchiquement n'as aucun compte à rendre à leur hiérarchie, et de toute façon il y a le secret professionnel, mais après c'est toujours délicat quand on partage le même cadre. Peut-être aussi dans ce, j'imagine un petit peu ce mouvement assez militaire, la personne qui doit faire face, qui doit être présente, et on imagine, on projette des personnes hyper solides, hyper loyales. Du coup, évoquer une mutation, une difficulté au travail, ça ne doit pas être si simple que ça en fait.
Non. Et c'est tout le rôle de l'assistante de service social sur un groupement, c'est déjà de faire connaître ses missions. Mm-hmm. Donc, c'est prendre son bâton de pèlerin et faire le tour de ses unités.
Bonjour, c'est moi.
C'est ça, voilà. Comment vous allez aujourd'hui? Voilà, c'est exactement ça. Alors, ça peut être très énergivore, il faut le reconnaître.
Bien sûr.
Parce que, au gré de leur mutation, bah, vous arrivez dans une brigade que vous avez vue il y a un an, il y a eu beaucoup de changements de personnel, donc il faut recommencer.
Oui.
Néanmoins, voilà, on est sans cesse en train de construire cette communication autour de nos missions, de créer la place de l'assistante sociale, puisqu'ils ont aussi cette image. Alors, je leur dis souvent comme ça, d'ailleurs, je sais, vous ne venez pas voir l'assistante sociale parce que sinon, vous serez un cassos. Voilà. Alors, ça les fait beaucoup rire, mais finalement, en fait, parce que eux, c'est cette image-là qu'ils ont de... Ils reçoivent quand même souvent la nuit et les week-ends une population qui est très fragilisée quand ils travaillent en brigade. Mmh. Et cette population qui est fragilisée est souvent malheureusement suivie par le service social de secteur.
D'accord.
Donc pour eux, ceux qui vont chez l'AS et ils le cloisonnent comme ça, ce sont forcément des cassos. Alors je leur dis souvent que moi aussi un jour je serai peut-être une cassos, que ça peut m'arriver, une mauvaise chute dans l'escalier, de ne pas pouvoir réussir à payer mon loyer. Et avoir besoin d'une assistante sociale. Du coup, avec le ton de l'humour, comme ça, ça passe tout de suite mieux.
En dédramatisant un petit peu, oui, mais après, oui, c'est sûr, ça peut être compliqué comme chemin à faire, évidemment.
C'est ça. Et du coup, il faut rentrer dans leur cadre aussi, à eux, de vocabulaire, voilà, de casser des représentations, et du coup en y allant un petit peu de façon un peu brute de décoffrage comme là, même si c'est à l'opposé de ce que, par, voilà, ça me faisait hurler au début quand j'entendais ça, mais j'ai compris que ça ne servait à rien d'hurler en fait, et qu'il fallait se servir de ça avec sous le ton de l'humour pour leur faire comprendre les choses différemment.
Oui, bien sûr, si tu rentres en confrontation directe avec eux, tu n'obtiendras rien, quoi.
Voilà. Okay. Et finalement, au bout de ces 10 ans, là, la place, elle est bien identifiée.
Oui.
On a eu des périodes avec énormément de souffrance au travail. On intervient dans le service social des armées aussi dès lors qu'il y a un événement grave. Donc, un événement grave, c'est dès lors qu'il y a un blessé, mm-hmm, en service ou un décès.
D'accord.
Et là, notre mission, elle bouscule énormément. Alors, je ne sais pas si c'est mon côté chat noir, mais finalement, j'ai eu beaucoup d'événements graves pendant ces plusieurs années à l'Action sociale des armées, où là, on va venir faire à la place d'eux un peu, hein, parce que l'idée, c'est quand il y a un décès en service, c'est de proposer à la famille de la soulager dans les démarches administratives au maximum.
D'accord.
De faire l'interface entre eux et le commandement militaire sur la mise en place... Des obsèques, de est-ce qu'ils veulent ou pas une délégation militaire. Voilà. Toutes ces questions-là vont être abordées par le service social. On va les accompagner sur la mise en place du déménagement. On va aussi être là pour l'unité dans laquelle était le militaire, pour aller soutenir ses camarades.
Mm-hmm.
Donc, on va avoir aussi tout ce volet. Finalement, je le dis souvent, mais on a vraiment un champ psychosocial.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, t'es un peu...
À la limite, pourquoi parfois. Alors, on a une psychologue pour toute la Franche-Comté. On a une psychologue clinicienne.
D'accord.
Je pense qu'on est vraiment à la limite des deux métiers. On est dans l'entre-deux, en fait. Quand ça dépasse mes compétences, j'oriente vers Maud, avec qui j'ai un beau travail de partenariat. Mais souvent, c'est important, voilà, d'apporter une écoute. de faire des retours sur ce qu'ils nous apportent en entretien, permettre qu'ils construisent leur chemin. Mmh. Et parfois, il n'y a pas besoin d'orienter vers Mood, mais on est vraiment dans ce volet-là. Finalement, c'est, je découvre un autre, mais en arrivant à l'ASA, je découvre vite un autre métier, en fait. Hein. Ouais. Parce qu'on l'est en polyvalence de secteur, dans cette écoute active, etc. Mais pas... Là, j'ai le temps. Je le dis, l'Action sociale des armées est une belle institution. J'ai le temps d'accompagner mes ressortissants.
Mmh. Oui, tu disais tout à l'heure que tu as des moyens qui rendent ton travail plus confortable pour exercer et intervenir.
Clairement, même si c'est parfois, ça peut être éprouvant, hein, c'est des postes qui sont très chronophages en fonction des missions qu'ils vont avoir et des événements graves qui arrivent. On a des moyens d'action à l'Action sociale des armées qu'il faut reconnaître. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une belle institution parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être toute seule, la seule assistante sociale des armées pour tout un département. Mais j'ai un collègue, un adjoint administratif qui est là à temps plein pour cette antenne-là. En gendarmerie, on a un véhicule de service qui nous est mis à disposition. On a des outils numériques. On a des moyens aussi financiers et d'action avec des prestations qui peuvent vraiment nous permettre de faciliter, de répondre à la problématique de notre ressortissant. Après, les collègues sur l'armée de terre, elles ont aussi des missions. On fait partie de la même équipe, armée de terre, gendarmerie. Mm-hmm. Elles ont des missions qui sont des fois tout autres, où là, on va toucher un peu plus, peut-être un peu plus sur le volet polyvalence de secteur, parce qu'ils ne sont pas logés, avec des salaires qui sont un peu plus modestes qu'en gendarmerie. Et puis, elles ont leur régiments qui sont projetés sur des terrains d'OPEX, on appelle ça. Et donc des terrains de guerre avec les risques que ça comporte pour ces personnels-là et qui sont partis, hein, qui partent entre 4 et 6 mois en OPEX. Et donc, ça vient bousculer la famille. 4 ou 6 mois d'absence, ça bouscule énormément la cellule familiale. Donc, oui. Elles vont avoir tout ce volet-là d'accompagnement aussi des familles lors des départs en OPEX. Moi, en gendarmerie, je l'ai moins. Je vais l'avoir simplement quand les gendarmes mobiles partent en mission 3 mois outre-mer. Et ça bouscule un petit peu moins les familles parce que les missions outre-mer, ils peuvent communiquer entre eux. Et la mission ne dure que 3 mois.
Ok. Et alors justement, il me semble, c'est pas il me semble, c'est je sais, quand tu m'as contactée pour témoigner sur le podcast, que tu as participé à une expérience qui t'a permis de mettre en lien ce que tes collègues, en tout cas de l'armée, de la gendarmerie, pouvaient avoir. Toi, tu as expérimenté un petit peu et tu vas nous expliquer comment ça s'est passé, les tenants et les aboutissants du projet, ce qui s'est passé pour vous sur ce projet-là, de vivre un petit peu ce qui traverse et ce que ça t'a permis de comprendre et de traverser un petit peu ce que ça a changé dans ta profession. Donc, je te laisse en parler, tu es la mieux placée.
Alors, une des missions donc de l'assistance de service social à l'ASA, c'est d'accompagner les blessés des armées, donc que ce soit de l'armée terre, gendarmerie, enfin toutes les armes, la marine, etc. On accompagne nos blessés des armées dans toutes leurs démarches. Moi, sur mon poste dans le Jura, je suis la seule assistante sociale des armées, donc j'accompagne tous les militaires sur ce volet-là qui résideraient sur le département. Et en novembre 2020, on est en plein Covid. Et je crois qu'avec Nacera, une de mes collègues, on est en quête un peu de sens à notre action. Et puis, on reçoit un mail de notre direction qui nous demande de nous impliquer davantage dans la mise en lumière de l'accompagnement des blessés des armées. Et puis là, ça fait sens. On est toutes les deux très sportives et on se dit... il faut qu'on trouve un événement à la hauteur de leur engagement, à la hauteur de l'engagement de ces hommes et ces femmes qui, finalement, au péril de leur vie et de leur santé, s'engagent pour garantir notre liberté. Et vraiment, se nourrit une réflexion là en novembre 2020 à se dire il faut qu'on trouve quelque chose à leur hauteur. Et on se dit pourquoi pas une participation à un événement sportif connu. Donc au début, on part un petit peu sur le rallye Aïcha des Gazelles. On se rend vite compte que le budget est trop élevé. Et finalement, ça nous convient pas trop parce que c'est en volet automobile. Avec honnêteté, je pense qu'on se sent pas trop de conduire non plus pendant 3 semaines un véhicule en plein désert marocain. Et ça vient un peu bousculer un petit peu aussi peut-être des valeurs plus écologiques, en tout cas sur ce volet-là. Mmh. Et par contre, il développe en parallèle pour la première année en 2021 le trekking gazelle. Et là, ça fait sens pour nous parce que c'est une course d'orientation en plein désert marocain, sans moyen de communication, à l'ancienne, à la boussole et à la carte, chose que les militaires maîtrisent. Et puis, tout se fait à pied. Et finalement, on se dit qu'il faut qu'on donne du sens à cet engagement-là et que par le sport, par le défi sportif, se dépasser davantage. Voilà, on savait qu'on allait pouvoir se dépasser davantage pour eux et les mettre en lumière. Donc, tout ça, ce petit bout de cheminement se fait en novembre. Et en décembre, on interpelle notre conseillère technique d'encadrement pour lui présenter le projet. Elle nous dit que c'est un peu fou, mais qu'elle adore. Et que malheureusement, ce n'est pas elle qui valide et qu'il faut qu'on fasse valider les choses par toutes les strates de notre hiérarchie. On rencontre juste avant Noël notre conseillère technique de direction. On lui présente le projet. Qui a exactement la même réaction, qui dit « Je vous ai demandé d'être ambitieux, être innovant, je ne m'attendais pas autant. » mais qui finalement trouve que c'est un beau projet, qui fait sens parce qu'il va permettre de mettre en lumière les blessés des armées, de mettre en avant aussi notre service, l'Action sociale des armées, qui est un service peu connu finalement.
Oui, bien sûr.
Et puis de mettre en avant les femmes et les personnels civils des armées qui s'engagent aussi au quotidien pour les forces armées. Donc voilà, ce projet-là, il met en lumière beaucoup de versants au-delà des blessés. Ça permettait aussi d'accentuer sur d'autres choses. Et elle nous dit je présente ça au directeur. Et là, on est quelques mois sans nouvelles. Et on se dit, le temps passe, les inscriptions, il faut qu'on puisse s'inscrire. Mmh. Pour qu'on puisse faire du démarchage, pour récolter les fonds, pour s'inscrire. Et le conseil que je donnerais toujours, c'est qu'en fait, il faut toujours y croire et jamais rien lâcher, donc on ne lâche rien. Il nous faut à ce moment-là aussi une troisième camarade à emmener avec nous. Donc, on embarque dans l'aventure une toute jeune collègue qui arrive dans le service en janvier 2021. qu'on embarque dans cette aventure, Coralie.
Elle a dû se demander où est-ce qu'elle arrivait, du coup.
Oui, alors, chance, on avait déjà fait un stage à l'ASA, okay. Auprès de Nacera, donc voilà. Mais elle s'est quand même demandé quand même dans quoi on l'embarquait, je pense, la pauvre. Et finalement, on a une visio très importante au printemps avec le directeur du service à compétence nationale de l'Action sociale des armées. Qui nous dit ok, c'est un beau projet, maintenant il faut voir à qui on va reverser les fonds récoltés. Et qui met en lumière que l'institution qui colle à notre projet, c'est l'Institution nationale des Invalides, l'Institut national des Invalides.
D'accord.
À Paris, qui accueille dans cet hôpital-là les blessés de guerre, qui a 2 volets, qui a un côté hôpital pour soigner nos blessés de guerre, et puis qu'il y a un volet aussi, j'ai mangé le mot, mais qui en fait permet, c'est pas un EHPAD, j'ai mangé le mot.
Peut-être un centre de
résidence. Alors en fait, ils y résident, hein, c'est leur lieu de vie.
Ok.
Voilà, c'est leur lieu de vie, mais finalement, on n'est pas sur de l'EHPAD parce que l'EHPAD, on va être plus auprès de personnes âgées et que là, le plus jeune bénéficiaire de ce service-là a 34 ans.
D'accord.
Et que par les blessures qu'il a eues sur terrain de guerre, il est en l'incapacité de retourner à son domicile.
Ok, d'accord.
Et donc, il met en avant l'Institution nationale des Invalides, qui pour nous a du sens. Et il nous dit, il faut qu'on trouve un mécénat pour payer vos frais d'inscription. Et il nous dit aussi à ce moment-là, je m'en charge. Donc là, on se dit, c'est fou en fait. C'est en train de prendre. Notre projet devient un projet de service, mais devient un projet national.
Oui.
On se retrouve très vite à Paris en juillet, aux Invalides, pour rencontrer le général, pour présenter notre projet, visiter les Invalides, rencontrer des blessés. On rencontre très vite après notre mécène, Harmonie Mutuelle, en septembre. Les choses s'enchaînent assez rapidement. À côté de ça, il faut pouvoir se préparer physiquement, préparer notre matériel.
Oui.
Les militaires nous forment à la topographie. Et c'est un beau moment de partage parce qu'habituellement, ils viennent vers nous pour obtenir de l'aide. Et c'est rarement le service social qui va vers eux pour obtenir de l'aide. Et finalement, c'est un juste retour. Ils prennent du temps pour nous apprendre, en fait.
Il y a un vrai échange entre vous, du coup.
C'est ça. Et puis, ça casse aussi les représentations de l'assistante sociale, un petit peu. Ils nous voient d'une autre façon. Ils nous mettent en galère, hein, parce qu'ils nous ont quand même aménagé dans les entraînements. Et on tombe sur des... Voilà, là, il y a... Comme quoi, à chaque fois, on a des personnes très fortes, des très belles personnes sur notre chemin. Et puis, on a un personnel blessé, blessé des armées, qui est touché par notre action et qui finalement nous fait une belle surprise après un entraînement de nous attendre pour nous offrir une boisson et qui va nous offrir, juste avant de partir, une petite étoile dorée pour nous porter chance, en fait. Et qui nous dit simplement qu'on ne se rend pas compte à quel point on a été importante pour lui. Je crois qu'on ne s'en rendait pas compte, vraiment pas.
En voulant mettre en lumière ce public, du coup, vous n'êtes pas rendu compte que de l'impact que vous aviez sur lui, eux en tout cas. Ok. Et tu me disais que justement pendant cette préparation-là, tu avais eu accès à une préparation un petit peu mentale également et que tu avais traversé. Que vous aviez traversé du coup toutes les trois le travail d'avant, préparation, de se dire je vais devoir partir, quitter mon pays, aller sur un pays que peut-être vous connaissiez pas, m'absenter auprès de ma famille, et que d'avoir traversé ça, qu'est-ce que ça a généré chez toi, enfin chez vous, si ça a été parti.
Oui, ça nous a bousculé toutes les trois parce qu'en effet, ce projet, on l'a imaginé, il devenait concret. Et puis, on approchait de plus en plus de la date en novembre. Un peu de crainte, on partait sur un pays qu'on ne connaissait pas, avec des craintes en termes de sécurité un petit peu pour nous, en fait. Hein. On ne savait pas si potentiellement on n'allait pas être malade pendant ce trek, se blesser, etc. Donc, des craintes sont apparues. On a fait donc plusieurs séances de techniques d'optimisation du potentiel, ce qu'ils appellent le TOP dans les armées. Donc, on a fait des séances, ça ressemble un peu à de l'hypnose, qui permet de vraiment se dégager de nos peurs et de nos craintes et de se conditionner à la réussite. Donc, on a fait ce temps-là avec eux. Et puis, arrivait vraiment l'approche du départ. Et là, c'est venu bousculer nos familles, nos parents, pour celles qui n'avaient pas d'enfants et puis celles qui avaient des enfants. Voilà, ça a bousculé tout notre entourage, dans l'organisation aussi familiale. Et puis, maman, elle ne sera pas joignable, en fait, pendant tout ce temps-là. Donc un petit lot de culpabilité quand vous partez, en fait, quand tu pars pour ton aventure qui est une de tes aventures de vie, parce que ça te marquera toute ta vie, ce genre de choses, que t'es très contente en tant que femme de pouvoir y participer, même en tant que maman, parce que ça va véhiculer des belles valeurs à tes enfants. T'as toujours ton petit lot de culpabilité, ta petite valise que t'emmènes avec toi quand même.
Ou si ton sac à dos n'était pas assez lourd, hop, tu t'en rajoutes un petit peu.
C'est ça, en te disant, ben voilà, Moi, la veille, mon garçon me disait « Non, maman, je ne veux pas que tu partes, tu vas me manquer. Oui, » Voilà. Donc, heureusement que je suis partie de nuit parce que je pense que je serais partie en pleine journée ou m'aurait vu partir, ça aurait été…
Pas simple.
Oui, ça aurait été trop compliqué pour lui, pour moi, de me décharger de toutes ces émotions-là. Donc, on voit à quel point ça bouscule les familles, le départ.
Oui, bien sûr.
Le départ de nos militaires. Alors, nous, c'est à moindre échelle. On est parti qu'une semaine, il faut relativiser.
Mais tu as vécu ce truc de pas de moyens de communication pendant une semaine. Partir à l'étranger sur quelque chose que tu connaissais pas, même si évidemment tout ça tu l'as choisi, vous y avez travaillé, c'était une volonté, comme les militaires, ils ont choisi leur métier, ils ont envie de faire ça. Ça ne préserve pas l'envie de faire tout ça, ne préserve pas la cellule familiale d'un départ et de l'absence de nouvelles, évidemment.
Donc, on avait le seul moyen de communication, c'est que le soir, on pouvait leur mettre un mail pour leur donner de nos nouvelles, mais c'était très succinct. On était épuisés par les journées d'épreuve. Mm-hmm. Donc, on donnait des nouvelles très brèves pour rassurer tout le monde, en fait. Là-bas, sur place, on a été gens qui rient, gens qui pleurent, parce que de lire les messages de nos familles et de tout le soutien aussi... de nos collègues, des militaires. C'était assez incroyable quand on arrivait le soir de voir tous les messages qui étaient imprimés pour notre équipe. Et là, on avait aussi le poids des responsabilités à se dire, mais en fait, il n'y en a aucune des trois qui doit craquer et lâcher. C'est impossible. On est parti pour une cause, pour des gens qui ont été blessés gravement. Et puis, il y a tout le monde qui est derrière nous, en fait. Nos unités, nos collègues, nos familles. Impossible, là, en fait. Une sorte de pression, mais qui était aussi positive.
Oui, bien sûr, ça met une forme de pression positive à devoir réussir. Et c'est des encouragements à distance, j'imagine, nécessaires aussi pour...
Oui. Alors, on était vraiment gens qui rient, gens qui pleurent, parce que t'as fini ta journée et tu arrives, tu lis ces messages. Alors, il y en a qui nous faisaient rire, voilà. Et puis d'autres où les larmes montaient, parce que lire les messages de nos familles ou même de collègues ou de voir que le commandant de groupement, l'officier de l'armée de terre prenait du temps à écrire un message. Bah, voilà, c'est émouvant et ça touche en fait. Voilà. On ne peut pas être insensible. Et puis avec la fatigue de la journée, forcément...
Ça décuple un peu les choses.
Clairement, ça décuple les émotions. Et finalement, pendant toute cette période-là aussi, sans moyen vraiment de communication, si ce n'est ça, ça a fait un grand bien. Ça a fait du bien à l'esprit.
Ouais.
Ça a fait du bien aussi à la personne qu'on était, ça nous a ressourcés, ça nous a recentrés sur nous-mêmes, nos valeurs, pourquoi on le faisait. Voilà. Et ça fait un grand bien, c'est une belle expérience humaine. Je souhaite à toutes les femmes d'avoir la chance de faire un temps comme ça. Peu importe le mode du temps, que ce soit un trek, une retraite, de juste partir entre amis, mais de couper le téléphone, peu importe. En fait, vraiment à toutes les femmes et à tous les hommes, en fait, mais de se couper de cette charge mentale qu'on peut avoir au quotidien, c'est plus que nécessaire. Et quand on est rentré du trek, on a eu un grand sentiment de décalage.
C'est vrai.
Oui, on était tellement dans une bulle pendant cette semaine-là qu'au retour, en fait, rien que par un regard aujourd'hui avec Nassira et Coralie, il suffit qu'on se regarde, on sait exactement à quoi va penser l'autre.
C'était très, très intense, du coup, sur une semaine.
Et le retour à la réalité, le retour, Nassira le dit assez justement que le premier jour, en fait, elle avait juste envie... Elle était là sans être là dans sa famille, en fait. Les enfants vous sautent dessus parce qu'ils sont trop contents de vous retrouver. Et puis, en fait, nous aussi, on est ravis d'être avec eux. Mais on a vécu quelque chose de tellement intense qu'on serait prête à re-signer pour y retourner tout de suite. Voilà.
Et ça, ce sentiment-là, est-ce que tu as pu le partager avec tes collègues ? Est-ce que c'est des choses aussi qui traversent quand ils rentrent de mission ?
Clairement. Ouais. En fait, nos militaires, quand ils rentrent de mission, ils ont été dans leur bulle pendant 6 mois. Ils ont vécu des choses que seuls eux peuvent comprendre entre eux. Ouais. Et nous, ce qu'on a vécu pendant une semaine, il n'y a que nous et les autres gazelles qui peuvent le comprendre.
Ils sont déconnectés de...
Clairement. Alors nous, à l'échelle d'une semaine, ça nous l'a fait. Alors j'imagine, voilà, c'est une ampleur beaucoup plus intense au-delà de 6 mois, une intensité beaucoup plus forte. Donc en fait, ça a permis aussi vraiment d'expliquer ça qu'aujourd'hui, dans les entretiens qu'on va pouvoir mener, on les mènera peut-être différemment. Parce que quand on les accompagne pour un circuit OPEX, on appelle ça, avant départ, retour, etc., les temps d'échange, en tout cas, je dis souvent qu'on entend les choses, mais des fois, de les avoir un petit peu, on les comprend un petit peu plus, peut-être davantage quand on les a vécues.
Ouais, tu les as traversées à une autre échelle, mais traversées un peu quand même, donc du coup, tu penses que tu interprètes mieux ce qu'ils peuvent te dire.
Oui, dans notre pratique, ça aura modifié notre pratique.
Et la considération de vos collègues, est-ce qu'elle a été modifiée à votre retour? Pas qu'ils n'aient pas la bonne considération avant votre départ, mais est-ce que du coup, à l'inverse, eux se disaient « elle comprend mieux ce que je veux lui dire ».
Je ne sais pas. En tout cas, il y a une vraie reconnaissance du monde militaire de notre implication et de notre engagement.
D'accord.
Ils étaient assez étonnés et même bluffés parce qu'en plus, voilà, on n'a pas démérité. Alors, ce qui a pimenté notre aventure, c'est qu'on a été malade là-bas. Donc, pendant toutes les épreuves, on a beaucoup souffert, ouais, il faut quand même le dire. Et on est assez fiers d'avoir réussi à faire un top 15, donc on est 15e. Sur une centaine d'équipes.
C'est un sacré beau résultat quand même, en étant
On s'était donné pour objectif top 20 parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'équipes de trekkeuses semi-pro, entre guillemets.
Oui, bien sûr.
Et des personnes qui avaient déjà fait le rallye Aïcha des Gazelles, donc qui maîtrisaient davantage le désert marocain que nous.
Oui.
Et la topographie. Donc, on est très fiers d'avoir fait 15e. Et puis, on a gagné le trophée d'entreprise parce qu'on était aussi sur un deuxième classement puisqu'on représentait une institution. Et donc, on a terminé première entreprise.
Oh là là,
ça a permis de ramener le trophée au SGA, donc à la DRHMD, aux armées. Donc, à notre retour à l'aéroport, on a eu des autorités qui étaient présentes. C'était assez étonnant d'ailleurs avec un photographe. On a vécu quelque chose d'assez, d'assez particulier.
D'assez fort, voilà. Effectivement. On ne peut que l'imaginer, l'intensité du retour.
C'est ça. Et donc, quand même, les militaires étaient assez bluffés que 3 femmes civiles réussissent ce pari-là. Voilà.
Tu as évoqué un petit peu... ta compréhension, le décalage au retour, le fait que tu comprennes un petit peu mieux ce que peuvent traverser les personnes que tu reçois. Qu'est-ce que ça a déclenché également chez toi ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire
tout ce projet, en fait, cette année de projet a mis en lumière que... Et le départ au trek, en fait, a vraiment mis en lumière mon appétence pour la gestion de projet, le volet communication, et que finalement, parfois, ces temps-là, un peu d'introspection, mettent en lumière ce qu'on des fois, on se cache et qu'on n'a pas envie de voir. Ça faisait déjà quelques temps que ma hiérarchie me disait, Pauline, il faudrait... postuler pour être conseillère technique en service social. En tout cas, il faut aller de l'avant, là. Il faut avoir une envie d'évolution professionnelle. Et toute cette année-là, en fait, m'a permis de développer de nouvelles compétences ou de mettre en lumière les compétences que sans doute j'avais, mais finalement, sur mon poste, je ne pouvais pas les employer. Mm-hmm. Et tout ce temps-là, je suis rentrée en me disant « il est temps d'aller faire autre chose ». Il est temps pour moi de mûrir ma réflexion sur un autre projet professionnel. J'avais sollicité, alors je pense que c'était déjà en cheminement, mais dans l'année 2021, j'avais sollicité un bilan de compétences. Mmh. Et finalement, c'est mis en place à l'issue de mon trek en janvier jusqu'en avril, qui m'a permis de me recentrer sur ce que je voulais. Aujourd'hui, on n'a jamais vraiment fait le tour d'un poste, hein, on apprend quand même un peu tous les jours, mais les grandes lignes, ça fait 12 ans. Et, Et dans les grandes lignes, il y a des journées où je n'apprends plus et j'ai l'envie d'apprendre encore, de développer de nouvelles compétences. Et j'ai besoin d'aller faire autre chose. Donc, ce bilan de compétences, plus tout ce projet de trek et ce temps d'introspection a mis en lumière qu'il fallait passer des concours ou m'inscrire à un master. Donc, j'ai fait les deux. Je me suis inscrite au concours de l'IRA, l'Institut Régional des Administrations. Et puis, je me suis également inscrite en master MOS, des organisations sanitaires et sociales, management des organisations sanitaires et sociales, pardon. Et tout s'est décanté, alors c'est comme un alignement de planètes, comme dirait le colonel, mais tout s'est décanté là sur le mois de juin. Finalement, j'obtiens les deux. J'obtiens mon admissibilité à l'IRA et puis également en master, un master en distanciel, par contre sur 4 années. Okay. Et mon choix se focalise sur l'IRA, tout simplement parce que la formation est plus dense mais plus courte, 6 mois, au lieu de 4 ans en distanciel. Et que l'IRA va m'ouvrir le champ des possibles dans une autre filière, une filière plus administrative, mais qui va aussi correspondre à mes attentes, puisque j'ai postulé à plusieurs reprises sur des postes de chargé de mission ou qui étaient ouverts à des assistants sociaux ou à des attachés de l'administration, et finalement n'étant pas clairement dans la bonne case, dans la bonne colonne. Je n'arrive pas à atteindre ces postes sans repasser par soit un master, soit l'IRA. Et donc, je vais repartir. Je fais ma rentrée comme les enfants le 1er septembre. Voilà, il y aura un troisième cartable à la maison. Je repars sur les bancs de l'IRA. Bien sûr, ça va m'éloigner un petit peu du social. Ça, c'est certain. En tout cas, les premières années, j'en ai conscience. Puisque là, je vais m'engager dans une filière plus administrative. Néanmoins, il y a de fortes probabilités que je sois sur un poste avec du RH et du management. Et je pense que les valeurs qui nous animent quand on arrive en service social, elles sont nécessaires quand on veut faire du management bienveillant et du RH. Donc, ce qui fait ce que je suis, je ne vais pas le perdre.
Évidemment.
Et je crois qu'on fait aussi le poste qu'on a, on le construit aussi à l'image qu'on veut lui donner. Et puis, à terme, je ne m'interdis pas du tout de revenir sur des missions plus sociales, d'être chargée de mission en cohésion sociale, d'être sur une direction d'établissement pour personnes âgées, d'un foyer logement. Voilà, je ne m'interdis rien du tout, en fait. Voilà.
Le champ des possibles est ouvert, en fait. Le choix de reprise de formation, là, c'est un choix stratégique, entre guillemets, pour t'ouvrir d'autres portes et après naviguer un petit peu comme tu veux dans l'administration avec en ayant la bonne catégorie pour pouvoir accéder à des postes. C'est assez fou qu'une expérience comme celle que vous avez vécue avec le trek des gazelles, finalement, alors c'est pas la conclusion, mais t'amène à repenser ta carrière professionnelle, en tout cas ton avenir à court terme professionnellement. C'est que t'as été assez marquée par cette expérience. Est disponible après pour envisager autre chose.
Ça a été quand même assez éprouvant tout ça. Ça a été très énergivore. Et d'ailleurs, je me suis dit, lorsque je passais mon oral pour l'IRA, je me suis beaucoup, à ce moment-là, un petit peu prise de hauteur par rapport à mon corps, à me dire, mais Pauline, pourquoi tu t'imposes tout ça en fait hein? Parce qu'un concours, c'est quand même pas simple.
Oui, c'est sûr.
Et je me suis dit, mais à ce moment-là, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu t'imposes ça? Mais c'est nécessaire en fait.
Ouais,
c'est nécessaire pour... j'ai cette soif d'apprendre, j'ai cette appétence pour la découverte, la nouveauté. Je ne me voyais pas être assistante sociale ailleurs qu'à l'Action sociale des armées. Pour toutes les raisons que j'ai déjà détaillées sur l'Action sociale des armées. Et puis finalement, le trek a été l'aboutissement... Je pense qu'on ne peut pas rêver meilleur projet que celui-ci, en tout cas pour moi. Il y en a des magnifiques, mais en tout cas pour moi, c'était le plus beau que je pouvais porter dans cette institution-là. On a quand même récolté 15 000 euros pour les blessés des armées. Voilà, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux.
Effectivement, oui.
Voilà, 15 000 euros, ça va financer des casques VR, à réalité virtuelle, pour accompagner les blessés dans le retour à la vie civile, entre guillemets. Mm-hmm. Et en fait, c'était un peu l'apothéose, entre guillemets, de tout ce cursus à l'ASA. Je ne me voyais pas, aujourd'hui en tout cas, je ne me voyais pas être conseillère technique d'encadrement, en tout cas conseillère technique de service social. J'ai besoin d'ouvrir sur d'autres missions, voilà.
Oui. Oui.
Qui seront sans doute, c'est clair, complètement différentes, mais je crois que quand on a l'envie, on est capable de faire plein de belles choses.
Oui, je suis assez convaincue de ça aussi. Puis, c'est pas un départ définitif, comme tu l'as dit. Il y a tellement de possibilités, d'options pour rester connecté de près ou de loin au travail social ou pas.
Je crois que j'avais envie de penser travail social. J'ai envie de penser politique publique, mais être un peu détachée de la mise en application.
À une autre échelle.
Voilà.
Okay.
Et que finalement, mon poste d'AS me maintient un petit peu malgré tout, même si on peut faire remonter des choses dans une position d'exécutante. Alors, c'est pas du tout péjoratif hein, quand je le dis comme ça, mais je suis dans l'application, la mise en œuvre des dispositifs sociaux. Et finalement, aujourd'hui, j'ai envie d'y réfléchir à ces dispositifs sociaux, d'impulser des choses. Voilà. Et pour impulser des choses, ici, en tout cas, en France, hein, il faut faire partie des postes d'encadrement. Voilà.
C'est ça. Et puis, comme tu disais, chargé de mission cohésion sociale ou des choses comme ça, effectivement, là, t'es pile au bon moment, au bon endroit, pardon.
C'est ça.
Mmh. Bon, en tout cas, je te souhaite... en premier, beaucoup de courage pour le retour à l'école, parce que retourner assise plusieurs heures par jour, c'est quand même pas la chose qui est la plus évidente non plus. Et puis réussite évidemment, et de trouver à terme un poste dans lequel tu sauras faire part de ton ADN de travail social, de travailleuse sociale. Ouais, c'est vraiment un très très beau parcours que tu viens de nous faire part. Là, je trouve c'est une belle expérience qui donne envie, en tout cas, j'espère qu'elle aura donné envie. Moi, c'est le cas, donc je vais peut-être plancher sur le sujet à terme.
Oui, il faut ouvrir le champ des possibles. Quand j'interviens à l'IRTES, je dis toujours aux étudiants d'être innovants. Au pire, qu'est-ce que vous allez essuyer? Un refus, en fait.
Pas très grave.
Un refus,
c'est autre chose.
Voilà. C'est ça. Alors, bien sûr, ça peut être énergivore de se confronter à un multiple refus. Mais alors, si on se confronte à un multiple refus, il faut se poser la bonne question de, finalement, est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que ça me correspond réellement ? Voilà.
Bien sûr.
Et alors, on a eu beaucoup... Voilà, on est tombé sur des hiérarchies à l'écoute, qui a l'envie d'innover, ce qui a permis d'arriver à tout ça. Mais je crois qu'il faut juste y croire. Simplement, et se donner les moyens d'eux. Voilà.
C'est un beau message, en tout cas, que j'espère du coup tous ceux qui vont écouter ton épisode pardon, entendront comme tu arrives à le faire transmettre, je trouve. Du coup, j'ai souvent 4 questions à la fin, mais tu viens de répondre à la première si tu devais faire autre chose. Alors peut-être que pas totalement. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire complètement autre chose?
Ah oui. Je fais beaucoup rire en disant que j'irai élever des chèvres dans le Larzac. Mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Je ne sais pas si j'aurais vraiment rêvé de faire autre chose, mais en tout cas, il faudra toujours qu'il y ait un peu de relations humaines. Je me suis posé un jour la question de partir dans le champ un peu du médical. Finalement, je suis vite revenue en me disant que je n'avais pas forcément beaucoup de compétences et d'appétence pour ce volet-là. Je suis quelqu'un sportive, alors peut-être qu'un jour, je me dirais, je fais complètement autre chose. Voilà. Mais aujourd'hui, non. Voilà.
En tout cas, on sent que t'as quelques projets sous le pied quand même. Ça va pas.
Oui, alors bon, les chèvres dans le Larzac, je pense que c'est un leurre. Mais en tout cas, moi, il faut que ça bouge et que je crois qu'il ne faut pas subir son quotidien.
Bien sûr.
Pour en être acteur, tout simplement. et que si un jour ça ne me convient plus, ben je réfléchirai à autre chose et je me donnerai les moyens de faire autre chose.
Évidemment, il ne faut pas s'user. Je te dis là, Pauline, je te donne une baguette magique, qu'est-ce que t'en fais ?
Difficile comme question sans répondre à une phrase, en te donnant une réponse très bateau. Je crois simplement que je donnerais davantage, j'aimerais donner plus de moyens aux services sociaux, en fait, tout simplement. D'ouvrir les champs du possible dans l'accompagnement social et d'ouvrir un peu les vannes budgétaires, en fait. Mmh. D'avoir davantage de travailleurs sociaux pour accompagner sur le terrain, ce qui créerait aussi moins de souffrance dans les équipes et attirerait sans doute aussi les jeunes professionnels.
Oui.
Voilà, je pense que parfois c'est un peu le chat qui se mord la queue dans tout ça. On fait comme on peut avec les moyens qu'on a, mais souvent on a très peu de moyens et finalement on intervient en mode dégradé. Et c'est pas satisfaisant ni pour l'usager ni pour le professionnel. Donc si j'avais une baguette magique, je gonflerais les budgets de l'action sociale pour le volet accompagnement, pas tant sur le volet prestation, mais vraiment sur le volet humain, pour accompagner les personnes en difficulté.
Disponibilité et tout ça, ok. La question de l'invitée précédente, de Margot, son prénom, c'est si aujourd'hui je te donne carte blanche, quel service tu construis ? Alors elle a bien précisé carte blanche de financement, carte blanche de professionnel. Voilà, il y a toutes les vannes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu aimerais construire comme service, comme établissement, enfin ?
Alors aux armées, tout de suite ça me vient en tête. Aux armées, ils sont en train de développer ce qu'ils appellent des maisons Athos. C'est des maisons pluridisciplinaires pour accompagner les blessés des armées, et notamment tous ceux qui souffrent de stress post-trauma. Mm-hmm. Alors si j'avais carte blanche, et notamment sur le volet budgétaire, je crois que j'en implanterais une dans chaque département. Et notamment sur les départements comme celui du Jura, où c'est des départements isolés, où l'accès aux soins il est compliqué. Et que j'implanterais voilà, ces moyens-là pour accompagner les blessés des armées, et je pense qu'on ferait beaucoup plus de préventifs. Mmh. Et ça aurait du sens. Et dans ces maisons Athos, vous avez le volet soignant, il y a le volet social, il y a le volet psychologie. Voilà, si on me donnait carte blanche, je dirais au directeur, mettez une maison partout en France et dans les dom-toms.
Bien sûr, la proximité, elle compte aussi.
Clairement, parce que forcément, quand on n'a pas de proximité, on est en mode dégradé, on fait avec les moyens qu'on a, et on pourrait mettre en place tellement de belles choses, en fait, pour nos ressortissants si on avait plus de moyens en proximité. Donc voilà, si j'avais carte blanche, je mettrais en place ce type de service.
Ok. Et bien, je te laisse poser la question à la prochaine invitée.
Je vais faire un copier-coller d'une question qu'on m'a posée au concours, mais j'ai trouvé qu'elle avait du sens et je l'ai trouvée percutante, cette question. La dernière question que j'ai eue à mon concours pour intégrer l'IRA, ça a été celle-ci. Quelle est votre plus belle fierté professionnelle, votre plus grande réussite professionnelle ?
D'accord.
Et donc, j'attends de comprendre et d'entendre la plus belle réussite et fierté professionnelle ou en devenir la personne qui sera interviewée après.
Ok. C'est effectivement une question qu'on ne se pose pas souvent, en fait.
Non. Et ça m'a un peu désarçonnée quand même, hein, quand j'ai entendu cette question-là. Et finalement, c'est percutant et ça a permis de finir l'entretien sur une touche très positive.
C'est vrai. Et bon, je me charge de lui poser la question. En plus, c'est une personne qui, pour une fois que je sais les profils des personnes qui suivent, c'est une personne qui a eu un peu un parcours similaire au tien. En tout cas, elle exerce aujourd'hui, elle a exercé en France, en Suisse et aujourd'hui au Canada.
Ok, voilà. Super.
Donc, peut-être qu'il y aura des similitudes qui se retrouveront dans vos deux épisodes. Merci beaucoup, Pauline, en tout cas pour ton témoignage et la richesse de ton parcours, ce que tu as pu nous faire, en tout cas, je parle à mon échelle, mais moi, découvrir sur le service social des armées et sur le très, très beau projet que vous avez pu mener avec tes collègues. J'espère que ça inspirera beaucoup de monde et que le message positif que tu lances en disant de toute façon, ça coûte rien d'essayer, voilà, sera redonné ou donné un peu de dynamisme à des professionnels ou à d'autres qui sont un peu en perte de sens parfois, ou des jeunes professionnels qui sont pleins d'ambition et qu'un message aussi positif peut booster complètement. Merci beaucoup pour ça.
Merci à toi en tout cas. Merci d'avoir pris du temps pour moi. Merci.
Ben, je t'en prie, c'est normal. À bientôt.
Au revoir. If you think you're alone, you're not the only one. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.